pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par L'Incipit, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase de Tendre et la nuit de Scott Fitzgerald. Sur les bords charmants de la Méditerranée, à mi-chemin entre Marseille et la frontière italienne, se dresse un vaste et fier hôtel aux murs roses. Les écrivains américains adorent la France, particulièrement Hemingway et Fitzgerald. Ça donne de sublimes romans, Tendre et la nuit donc, à lire ou à relire. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres dans la forcément extraordinaire bibliothèque de Grishka Bogdanov tout à l'heure. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Son dernier livre n'a pas de titre, pas vraiment. C'est un smiley, un emoji hilar, un homme qui pleure, de rire, mais qui pleure quand même. Ça résume bien ce nouveau roman, le plus drôle et le plus triste de l'auteur. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Nicolas.
Ça me fait bien plaisir de vous retrouver et de retrouver Octave Parango dans ce roman. Il était déjà le héros de 99 francs, publicitaire, puis dans Au secours, pardon, là il était à la recherche de la beauté idéale. Le revoilà, toujours aussi cynique, ironique, flemmard, toxicomane sur les bords et aussi très très attachant. Mais plus désespéré que jamais, il est devenu chroniqueur pour France Publique, une grande radio du service public. Le début du livre s'ouvre sur une catastrophe. Il est 8h55, Octave est à l'antenne et il a perdu sa chronique. Il doit improviser pour meubler les 3 minutes dont il dispose, et quand il quitte le studio, eh ben il est viré. Flashback, nous sommes la veille au soir, Octave cherche un sujet pour sa chronique du lendemain matin et on le suit de bar en boîte à la recherche d'un bon sujet sur fond de révolution puisque les gilets jaunes ont envahi son quartier de prédilection, les Champs-Élysées. Alors je le dis tout de suite, il y a un avertissement au début du livre, toute ressemblance avec des faits réels ou des personnalités existantes pourrait révéler les limites d'un auteur sans imagination. En moins sévère pour vous, Frédéric Becbédé, vous auriez pu citer Boris Vian. Tout est vrai parce que je l'ai inventé. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de votre vie vos romans, finalement.
C'est une maladie de vouloir transformer mes problèmes en fiction pour qu'ils cessent d'exister, sans doute. Et je pars toujours d'une anecdote, d'une mésaventure personnelle qui m'arrive, et puis j'essaie d'en faire soit une satire, soit une autopsie. Mais évidemment, c'est un roman, et il faut le préciser, à chaque fois que je passe sur une radio, je le dis, ce serait pas intéressant si ça n'était qu'une anecdote d'un chroniqueur qui a rien foutu à la radio, on s'en fout. Mais ça m'a paru, là pour le coup, enrichissant d'essayer d'en profiter pour analyser ce qui ne va pas dans notre société.
C'est plus transparent chez vous, mais tous les auteurs font ça. Ils s'inspirent forcément de leur vie. De quoi d'autre, sinon ?
Oui, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir plusieurs personnages, ce qui permet de donner plusieurs points de vue sur un même événement.
Alors, donc c'est un roman certes, mais il y a des faux airs de pamphlet parfois, et vous vous en prenez à une certaine forme d'humour, de dérision. On pourrait se dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce que vous n'êtes pas le dernier.
Ou c'est l'hôpital qui se moque de lui-même.
Voilà, exactement, mais vous critiquez une certaine forme d'humour, et surtout son omniprésence.
Oui, je me critique surtout moi-même, et d'ailleurs c'est la même chose dans tous mes livres. Les gens vont dire que je suis un narcisse, mais je suis un narcisse qui s'autoflagelle, si on veut. Oui, j'ai passé ma vie dans le sarcasme, dans le rire sardonique, ça me paraît une liberté, et j'adore ça. J'ai toujours été ironique. Simplement, je constate, après un certain âge, que ça n'a rien changé au monde, que les problèmes restent les mêmes, et que peut-être, à ce moment-là, il faut s'interroger sur cette impasse. Il y a une impasse dans le sarcasme obligatoire et omniprésent dans notre monde. Comme si nous pensions être plus intelligents ou supérieurs au malheur, ou c'est une forme de fuite peut-être devant l'apocalypse, de tout le temps rigoler, plaisanter, mais sans jamais rien faire pour changer les choses.
Je vais vous citer. Aujourd'hui, la drôlerie est obligatoire. Les présentateurs plaisantent, les hommes politiques badinent, les chauffeurs de taxi galègent, même les pilotes d'avion, c'est vrai, et les conducteurs de train tentent des annonces comiques au micro. La grande rigolade est universelle. Ça pourrait être une bonne nouvelle quand même, puisque le danger, c'est quand même l'esprit de sérieux et que tout le monde se prenne au sérieux tout le temps.
Bien sûr, mais c'est pour ça, c'est d'ailleurs c'est le grand argument en faveur du rire permanent, c'est de dire « ne te prends pas au sérieux, j'ai entendu ça toute ma vie ». Mais je crois qu'à force de ne rien prendre au sérieux, on n'avance pas, on ne change pas. Et puis le sérieux a quand même des aspects positifs, par exemple en politique. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui sont un peu sérieux, qui expliquent les choses et qui disent « voilà, ça ne va pas, on va essayer de changer ». Je préfère ça plutôt que des lires, des comiques, parce que c'est ce qui est en train d'arriver dans le monde entier.
Oui, vous listez d'ailleurs des comiques au pouvoir. Les hommes politiques qui étaient des comiques.
Alors ça a commencé avec la candidature de Coluche en France, puis ensuite il y a eu Beppe Grillo élu en Italie, il y a eu Trump qui est un animateur de télé-réalité aux États-Unis, Boris Johnson qui est surnommé le clown Bojo, Vladimir Zelensky en Ukraine, etc. Mais Beppe Grillo en Italie, c'est le plus frappant parce qu'il est élu avec comme slogan « Vaffanculo ». Alors comment voulez-vous débattre avec un type qui vous dit « Vaffanculo » C'est compliqué.
C'est fin de la conversation. Oui. Enfin, le rôle de l'écrivain quand même, entre autres, c'est de dévoiler la mascarade sociale. Quand le serveur joue au serveur, quand le petit chef se prend pour le petit chef, quand la boulangère joue à la boulangère, la dérision, ça permet de se rappeler qu'on joue tous un rôle social et c'est pas mal d'en sortir. Ce que vous décrivez en fait, c'est le pire, c'est que l'humour est devenu système. Et le serveur, pour jouer son rôle, doit faire de l'humour. Idem pour le petit chef, idem pour la boulangère.
Oui, et puis il refuse d'être serveur. Parce que quand j'ai pris cet avion dont le commandant de bord se faisait des blagues, j'avais envie de lui dire, on te demande plutôt de bien décoller, de bien atterrir, mais pas spécialement de nous faire marrer. Et c'est là où les gens finalement refusent d'être ce qu'ils sont. Et c'est d'ailleurs le principe même de l'humour. L'humour, c'est comme le dit Bergson, c'est voir ce qu'il y a de mécanique dans le vivant, voir ce qu'il y a d'artificiel dans le naturel. Donc ça devrait être plutôt un accident que la norme. Quand l'humour devient la norme, quand il devient même peut-être une idéologie, alors c'est qu'on est complètement paumé. Voilà. Et vous... Je vois que ça vous laisse un petit peu muet.
Ah non, c'est plein de méditation, mon silence. Mais c'est vrai que c'est, je plaisante pas, c'est votre meilleur roman. C'est le meilleur parce que justement, il va très très loin dans cette réflexion-là. Et bon, évidemment, il se passe beaucoup de choses aussi dans le roman. Ça reste un roman et on suit les tribulations quand même d'Octave Parango. C'est pas seulement ce côté pamphlet. Mais justement, est-ce que vous avez hésité à aller trop loin dans la dimension pamphlétaire ?
Alors, j'ai...
Est-ce que vous avez dit ça va casser le roman, ça va casser la mécanique ? Ce n'est pas le cas.
Non, parce que j'ai déjà fait ça. Dans 99 francs, c'était un mélange de fiction et de pamphlet. Et je pense que c'est très bon pour le style. Alors, c'est peut-être... je vais être un peu prétentieux, mais pour l'écriture, la colère est un carburant positif. Et je pense qu'à un moment, d'avoir été révolté par ma petite mésaventure sans intérêt, ça m'a inspiré et ça m'a fait écrire des pages qui sont peut-être brutales, injustes, outrancières, mais qui font que le livre a une dynamique. Et donc ce mélange de colère et de narration, je trouve que c'est un peu ce qui fait ma marque de fabrique, quoi. En tout cas, quand j'écris les histoires d'Octave Parango, c'est une sorte de littérature qui est en moi, qui doit de temps en temps sortir. C'est à peu près tous les 10 ans.
Gardez votre énergie de révolté. On revient dans un instant.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, Frédéric Becbédé est toujours là pour parler de L'homme qui pleure de rire, son nouveau roman, et finit de rire d'ailleurs. Voici le Joker.
Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie, mettre du rire et de la joie dans ce monde. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie.
C'était un extrait du Joker, grand film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Frédéric Becbédé, vous parlez souvent de ce film, quelquefois de ce film et de cette figure de comics américain, l'ennemi juré de Batman. Et c'est vrai qu'il colle étonnamment bien au sujet de votre roman. Mais je me suis dit, le film est sorti en octobre dernier, vous aviez sans doute fini ou pratiquement fini de l'écrire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu le film ? Vous êtes dit, c'est pas possible. Il faut absolument que je rajoute ça.
C'est exactement le même sujet, mais vous savez, c'est pas le Joker qui a inventé ça, c'est Victor Hugo.
C'est Victor Hugo, l'homme qui rit.
L'homme qui rit parle d'un homme dont on a balafré le visage pour lui faire un sourire permanent. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de montrer que l'humour peut être une violence et qu'il y a un lien, c'est vrai, direct, entre le rire et une forme de fascisme, une forme de négation de l'humanité. C'est souvent l'exemple que donne Alain Finkielkraut, c'est les nazis qui se marraient en torturant des juifs, en humiliant des juifs. Et donc il y a cette espèce de lien. Et là, dans le film, c'est vrai qu'on voit très bien comment ce personnage complètement désocialisé, qui prend des bains avec sa mère et tout, va trouver dans le rire un exutoire et transformer ça en violence et en force, quoi.
La différence...
c'est terrifiant, en fait.
La différence entre les nazis et les criminels et ceux qui font de l'humour une violence, c'est que peut-être les criminels, eux, sont conscients qu'ils font du mal et le mal. Il y a aujourd'hui, et c'est encore plus subtil mais pervers, c'est que quand on choisit une victime, oui. Quand on est humoriste et qu'on s'acharne dessus, je ne suis pas sûr qu'on ait conscience de la violence de ce qu'on est
bien
en train
d'accomplir. Bien sûr, et puis l'humour est nécessaire, et c'est une respiration, et moi je ne vais pas non plus, je ne suis pas du tout en faveur d'une interdiction des blagues. En revanche, c'est vrai qu'inconsciemment, involontairement, eh bien, chaque semaine ou chaque mois, il y a un bouc émissaire. La société se met à se moquer d'une personne, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et on voit ce phénomène de plus en plus de meutes, puisque les humoristes se multiplient, puisqu'on est tous angoissés par l'apocalypse, et que donc on veut fuir dans les blagounettes. Mais il y a quand même des phénomènes de meutes, comme des meutes de hyènes qui ricanent sur des personnes, quoi.
Mais le problème, c'est que c'est ça, ou l'indifférence générale, au point que certaines victimes préfèrent subir les attaques plutôt que de disparaître. Et parce que vous en parlez aussi, c'est un des sujets du roman, c'est évidemment l'ère d'Instagram et des réseaux sociaux, et où on se met en scène et tout le monde veut être une vedette. C'est soit on est une vedette, et alors on subit des moqueries, soit on ne subit rien, mais en revanche, on n'est rien.
On n'existe pas, oui, oui.
Enfin, on regarde la société. C'est...
Bon, j'essaie de montrer tout ça, mais encore une fois...
C'est très bien articulé dans le roman.
C'est une sorte de satire de la satire. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de faire ça, parce que moi-même, j'essaie que le livre soit drôle aussi. Donc, c'est assez bizarre de lire un livre qui est marrant et qui se moque du marrant. Mais Octave est totalement, lui, inadapté à notre époque. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de l'ancien monde, hein, faut bien le dire. Ce pauvre Octave, qui me ressemble beaucoup, est très déphasé aujourd'hui. Et en plus, il a été expatrié pendant 10 ans en Russie. Et puis là, il revient à Paris. Il trouve ce job d'humoriste par miracle, par un concours de circonstances. Il remplace quelqu'un qui est parti en cours d'année. Il se retrouve humoriste sur la radio la plus écoutée de France. Et là, il sait bien qu'il est incompétent, mais c'est toujours amusant d'essayer de faire un nouveau métier. Alors, il s'y colle. Il en décrit dans le livre vraiment tous les aspects, comment on fabrique les chroniques, les blagues, comment on choisit les cibles, comment on fait une petite blague de proximité avec les gens autour de la table pour être bien vu. Toutes les techniques de l'humour sarcastique moderne. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans 99 francs. Je voulais montrer comment on fabriquait les campagnes publicitaires. Là, j'ai voulu montrer comment on faisait ce discours omniprésent, quoi.
Et c'est vrai que c'est un des paradoxes de ce roman. On rit beaucoup en lisant ce livre qui dénonce aussi une forme de rire. Mais ce n'est pas que marrant. Il y a une certaine forme de nostalgie. Je m'inquiète un peu pour vous, Frédéric, pour tout vous dire. Votre dernier roman, c'était Une vie sans fin, l'histoire d'un homme qui cherche l'immortalité ou la fontaine de jouvence technologique. Ouais. Et dans ce livre, vous êtes incroyablement mélancolique aussi.
Oui, c'est bizarre. Si vous n'êtes pas le premier à me dire ça, et ça m'inquiète un peu. Parce que j'ai l'impression d'aller plutôt bien, j'ai quitté Paris il y a 3 ans, j'ai une vie de famille. Mais en même temps, quand j'écris, je me mets dans un état très dépressif.
Et Octave Parango, le héros, est notamment triste par nostalgie, parce qu'il passe son temps à regretter son âge d'or, c'est-à-dire les années, fin des années 80,
sa jeunesse,
90.
Oui. Peut-être qu'il regrette aussi la disparition d'un monde. Alors il y a des bonnes choses dans cette disparition, mais il y a aussi des souvenirs. Peut-être ce qui m'intéresse le plus, vous savez, quand j'écris un roman, c'est pas tellement de dénoncer quoi que ce soit, c'est plutôt cette partie qui est la deuxième partie du roman, c'est la partie de déambulation dans le temps, de remémoration d'une jeunesse perdue, oubliée, gâchée. C'est là où, si vous voulez, moi j'admire énormément quelqu'un comme Modiano ou Proust, et je trouve que peut-être c'est ce qu'il y a de plus beau et intéressant dans la littérature, c'est ça, c'est le quand souvenir. Tout d'un coup, Octave descend les Champs-Élysées, il slalome entre les CRS et les manifestants, il a les yeux qui pleurent à cause des gaz lacrymogènes, il passe devant le Queen et il se souvient d'avoir organisé une fête là, où il avait dansé avec Rachid Tarr, et puis il est mort, son ami est mort. C'est difficile d'expliquer ça à la radio, mais c'est pour moi ce que j'aime dans les livres, c'est ça. Davantage que de montrer du doigt les dangers de notre société.
Ça, c'est comme pour tous les livres, on peut en parler longtemps, mais le mieux pour les comprendre, c'est évidemment de les lire. Avant de vous laisser repartir à Guétari, il faut quand même qu'on parle de ce smiley là, qui est en couverture, ce bonhomme qui pleure de rire. Oui. Et il n'y a pas de titre, en fait. C'est un homme qui pleure de rire officiellement ensuite... ça doit être pour le référencement, pour les libraires et Internet.
Ah,
et
c'est
tout
un
ça.
Cauchemar.
L'homme qui pleure de rire.
Il y a plusieurs titres sur Amazon.
Le vrai titre, c'est ce smiley. Il y a juste ce smiley en couverture.
Oui, parce que c'est le symbole le plus envoyé dans le monde. Donc, il existe un nouveau vocabulaire. Et je crois que ce n'était pas inintéressant de l'utiliser dans un roman.
Et dans votre roman, vous essayez d'écrire tout un texte avec que des émojis.
Oui, qui n'est pas ce que j'ai fait de plus brillant. Mais ça montre que en remplaçant les mots par des images, on diminue aussi la nuance, le langage, la richesse du vocabulaire. Et que c'est peut-être aussi cette diminution-là qui provoque le manichéisme dans lequel on est, où les choses doivent être toutes blanches, toutes noires, et où c'est la guerre civile en permanence. Pourquoi ? Parce que ce qui est important dans la langue, c'est sa richesse, sa complexité. Et en simplifiant les choses comme ça, on obtient un monde terrifiant. Donc moi, je n'approuve pas tellement mon titre. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la première fois que tous les gens que je rencontre sont obligés de faire un effort pour lui donner un titre à mon livre. Donc le titre ne m'appartient pas à moi, il appartient à tous les lecteurs. Et ça, c'est la première fois que ça arrive, je trouve ça très, très amusant.
Et le titre non officiel, c'est donc « L'homme qui pleure de rire ».
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est comment vous l'auriez appelé, vous ?
Eh bien oui, moi je disais le dernier bec BD.
voilà.
Mais ça c'est périssable.
Appelons-le comme ça.
Enfin, si vous le cherchez quand même, L'homme qui pleure de rire, c'est chez Grasset. Merci beaucoup Frédéric Bec BD.
Merci Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres, nous allons parler d'un roman culte, La conjuration des imbéciles, et nous lirons les premières pages. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, j'ai choisi « La conjuration des imbéciles » de John Kennedy Toole. C'est l'histoire d'un certain Ignatius Reilly à la Nouvelle-Orléans, un personnage plutôt odieux, un spécialiste de littérature médiévale qui vit encore chez sa mère à plus de 30 ans. Il est un peu négligé, il porte en permanence une vieille chemise canadienne et une casquette à oreilles. Il déteste à peu près tout, le monde ne supporte pas son époque et voit des complots partout. Il est assez feignant, en plus de ça, il n'a jamais travaillé de sa vie jusqu'au jour où sa mère va l'y obliger. Et on suit donc les aventures de ce personnage parfaitement antipathique, misanthrope et dégoûtant, même si, eh ben oui, on finit par s'y attacher. C'est ce qui en fait un grand livre. Incroyablement moderne en plus. Et puis quel titre, La conjuration des imbéciles, c'est intriguant. Ça provient sans doute d'une citation d'un autre écrivain, Jonathan Swift, qui écrivait « Quand un vrai génie apparaît dans ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Et c'est un peu l'histoire de l'auteur d'ailleurs, John Kennedy Toole. Il s'est suicidé en 1969 sans jamais avoir trouvé d'éditeur pour son livre. Il se prenait pour un écrivain raté. Surtout, il ne supportait pas l'idée de vivre s'il ne pouvait pas exercer son art, alors c'est sa maman qui décide ensuite de reprendre le flambeau. Elle exige des éditeurs qu'ils lisent le livre et elle attend dans les couloirs. De guerre lasse, un jour, un éditeur ouvre le manuscrit, lit les premières lignes et il se rend compte immédiatement qu'il a affaire à un génie. La conjuration des imbéciles est finalement publiée en 1980 aux États-Unis, résultat des millions d'exemplaires vendus et le prix Pulitzer en 1981. Je vous propose d'écouter les toutes premières pages lues par Philippe Dussault.
Une casquette de chasse verte enserrait le sommet du ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes, pleine de grandes oreilles, de cheveux rebelles aux ciseaux et de fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse et à leur commissure s'enfonçaient en petits plis pleins de désapprobation et de miettes de chips. À l'ombre de la visière verte, les yeux dédaigneux d'Ignatius Reilly dardaient leur regard bleu et jaune sur les gens qui attendaient, comme lui, sous la pendule du grand magasin Holmes, scrutant la foule à la recherche des signes de son mauvais goût vestimentaire. Plusieurs tenues, remarqua Ignatius, étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur. Quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme, Ignatius, quant à lui, était confortablement et intelligemment vêtu. La casquette de chasseur le protégeait des rhumes de cerveau. Son volumineux pantalon de tweed était fait pour durer et permettait une liberté de mouvement peu ordinaire. Ses plis et replis emprisonnaient des poches d'air chaud et croupi qui mettaient Ignatius à l'aise. Sa chemise de flanelle à carreaux rendait inutile le port d'une veste. Et le cache-nez protégeait ce que Riley exposait de peau entre col et oreillette. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques, aussi abstrus fussent-ils, et dénotaient une riche vie intérieure.
C'était donc le début de La Conjuration des imbéciles, lu par le comédien Philippe Dussault, et je vous conseille vivement la suite. La semaine prochaine, c'est vous qui me dites quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé éventuellement, que vous offrez tout le temps. Écrivez-nous, il existe plusieurs moyens. Un mail, d'abord, à l'adresse livre@europe1.fr, sinon un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de Grishka Bogdanov.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Les frères Bogdanov ont publié récemment la version illustrée du Visage de Dieu. C'était l'occasion d'aller visiter la bibliothèque de Grishka. Bonjour Grishka Bogdanov.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, dans votre bibliothèque. Alors, je dois dire que j'en ai fait beaucoup, des bibliothèques. Mais là, je suis impressionné, je suis un peu tremblant même, parce que souvent, donc, dans les bibliothèques que je visite, il y a beaucoup de livres, de romans contemporains, etc. Et puis souvent, il y a un petit coin avec des livres anciens. Là, c'est l'inverse. Il n'y a que des livres anciens. On est dans un bureau, je décris rapidement, avec des boiseries un peu partout, un peu 17e. Il y a deux globes magnifiques anciens. Et puis donc tout autour de la pièce, il y a des bibliothèques en bois remplies de livres anciens. Qu'est-ce que c'est que cette collection Grishka Bogdanov?
D'abord, merci de trembler du même rêve que ces livres anciens. En fait, c'est une bibliothèque que je qualifierais de nietzschéenne, en ce sens qu'elle fait la synthèse entre le passé profond et l'avenir lointain. Pourquoi ? Nietzsche a eu raison de dire un jour dans le Gai Savoir que ceux qui veulent accéder à l'avenir doivent avoir la mémoire longue. Et c'est cette longue mémoire qui traduit bien entendu une traversée conceptuelle, mais pas seulement. Elle traduit aussi un lien avec un passé dans lequel nous sommes nés, Igor et moi, un château du Moyen-Âge. Et certains des ouvrages qui sont ici viennent de ce château du Moyen-Âge, qui lui-même, évidemment, était précédé par d'autres châteaux, puisque la famille remonte loin vers les années 1000, 1030, 1050, donc assez tôt dans le début de ce millénaire.
Donc vous êtes partagé avec Igor les livres anciens qui étaient dans le château, ou vous n'avez pas de bibliothèque commune?
On n'a pas de bibliothèque commune. La plus grande partie de ce qui fait le fond historique, si on peut dire, et plutôt ici, mais Igor a aussi, bien entendu, une autre partie, un autre segment de cette collection bogdanovienne. Mais en effet, certains de ces ouvrages sont suffisamment rares pour être portés d'une bibliothèque à l'autre. C'est-à-dire que de temps en temps, je prends un des ouvrages, par exemple un ouvrage de Montaigne, parfois ils sont annotés de sa main, et je les donne à Igor pour qu'il puisse évidemment relire les essais.
On va en venir au livre très vite, évidemment, mais d'abord, je voudrais que vous nous parliez de ce tableau incroyable qui est accroché entre deux bibliothèques. On voit une sorte de diable qui est en train de signer un papier tenu par un moine. Qu'est-ce que c'est que ce tableau ?
Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est l'inversion du mythe de Faust. C'est un tableau du XVIIe siècle, qui l'a aussi à voyager dans les annales familiales, mais qui représente la reddition, justement, du démon. C'est merveilleux, parce que c'est le triomphe du bien sur le mal. Puisqu'on voit effectivement que le démon signe auprès d'un ecclésiastique, auprès d'un moine.
Il est agenouillé devant le moine.
Il est agenouillé devant le moine, et il signe effectivement le triomphe du bien contre le mal.
Incroyable. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Comment vous les organisez, ces livres ? Parce qu'il y a des collections complètes un peu partout. Comment c'est organisé ?
Ces livres, en fait, voyagent dans le temps. Les plus anciens sont du XVIe et parfois même du XVe siècle. Sont ceux qui sont tout à fait au fond. Ces grands livres que vous voyez au fond, ce sont des livres qui ont voyagé vraiment depuis longtemps, puisqu'ils sont dans un contexte qui, du point de vue séculaire, remonte à loin. Ici, là, nous avons des livres qui ont 500 ans.
Wow.
500 ans, pourquoi ? Parce qu'ils sont entre 1520 et 1530. Le plus ancien doit être de 1510. Donc, vous voyez, c'est 510 ans. On n'est pas loin, effectivement, de cette grande traversée de 5 siècles.
C'est quoi ? Alors, c'est quoi ?
Ceci ?
Oui.
Ah, ce sont des recueils extrêmement intéressants parce que le droit est né... Il y a deux catégories de livres ici. Il y a d'une part le droit est coutumier en Angleterre, mais il est également coutumier en France. Et ces empilements jurisprudentiels créent des recueils. Ici, ce sont des recueils juridiques. On voit le droit d'il y a 500 ans, ce qui est quand même un reflet merveilleux de l'évolution d'un groupe social qui était le groupe féodal. Et puis, il y a une autre invariance dans le domaine que je qualifierais de livresque, mais qui passe... Tiens, je vais dire de livresque, il y a presque le mot ivresse. Et en fait, et l'ivresse ici, elle m'est donnée par des livres scientifiques, comme celui-ci, qui est un livre qui va chercher dans les fondements mathématiques de l'époque, c'est-à-dire donc 16e siècle, va chercher un certain nombre de réponses. Et là, vous avez effectivement des réverbérations de ce que les strates historiques lointaines ont pu porter. Et je vais vous amener maintenant vers quelque chose de plus contemporain, quoique. Nous sommes ici dans le XVIIe siècle. Là, nous sommes chez Voltaire.
Ah oui,
là, nous avons effectivement une partie de la collection qui est ici, puis une autre qui est là-bas. Alors, c'est les œuvres complètes de Voltaire. Voltaire, ici, nous donne évidemment accès à tout ce qu'il a accompli. C'est-à-dire donc les essais politiques, c'était un grand physiocrate, mais c'est aussi le lieu de... cet abîme de réflexion philosophique auquel il nous invite. Les contes philosophiques, ce qu'on peut en retirer est merveilleux. Par exemple, je retire là, de ces livres, les anecdotes sur Voltaire, qui sont totalement contemporaines. D'abord, évidemment, je retire ce qu'il a pu vivre lorsque il dit que, finalement, l'homme heureux est celui qui cultive son jardin. Ça, on connaît, évidemment, pour être heureux, cultiver votre jardin. Mais je découvre aussi l'affrontement qu'il a eu, parce qu'il en parle, avec le chevalier de Rohan. Il a été bastonné en place publique. Et il raconte, évidemment, avec ce langage voltairien qui est le sien, qui est merveilleux, il raconte que cette bastonnade en place publique lui a donné l'occasion de faire un beau mot, et puissant, puisqu'il a traversé l'histoire. Il dit « Monsieur le chevalier, sachez que cette bastonnade publique sera retenu dans l'histoire, car je commence mon nom, alors que vous, chevalier, vous finissez le vôtre. » C'est pas beau ?
C'est magnifique.
Mais c'est magnifique. Et plein de choses comme ça.
Vous osez les ouvrir, ces livres-là, ou vous les avez dans une autre édition ?
Je les traverse de deux manières. Il faut les respecter, ces livres-là, parce qu'effectivement, ils sont anciens, 1600 et quelque chose, donc ils peuvent être fragilisés par le temps. Donc, mon but... et de faire en sorte qu'ils le traversent le plus longtemps possible et qu'ils soient encore là dans 200, 300 ans, évidemment. Donc, du coup,
vous n'en êtes pas le propriétaire, vous en êtes le gardien, c'est ça ?
J'en suis le garant, exactement.
Ouais. C'est quoi la pièce maîtresse de la bibliothèque ? S'il y a le feu, il en faut, vous n'avez pas
en
prendre qu'un
la
seul.
La pièce maîtresse, bah, si, il n'y en avait qu'un seul. Notre merveilleux philosophe français, le livre est justement chez Igor en ce moment.
Ah.
C'est comme je l'ai dit, les livres voyagent et ils voyagent entre nous, parce que de temps en temps il faut revenir. Donc la pièce maîtresse, c'est le tome 1 des essais de Montaigne. Oui, mais ils sont là, d'édition originelle, originale. Donc c'est inouï, c'est merveilleux, merveilleux. On a découvert cette œuvre quand nous étions tout petits, Igor et moi, reliée de manière superbe dans un cuir blanc. Parfait. Il s'est marqué dessus les essais, annotés de sa main. Notre compagnon à l'école des hautes études en sciences sociales, et je dis ça au double sens du terme, compagnon, c'est Antoine Compagnon, justement, que vous connaissez. On était au séminaire de Roland Barthes ensemble, le petit séminaire où nous préparions à cette époque-là une thèse de doctorat en sémiologie, Igor et moi. Et en fait, Compagnon a écrit sur Montaigne, était avec Montaigne. Et j'ai retrouvé évidemment la grâce de cette écriture de Montaigne il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai réouvert ce livre, pieusement, religieusement, parce qu'il faut faire très attention, c'est un livre très ancien. Je l'ai refermé après avoir évidemment tiré la substantifique moelle. Et puis je l'ai donné à Igor et il est là-bas. Donc c'est la pièce maîtresse.
Alors ça, c'est extraordinaire. Parce que je suis encore face. Attendez, parce que je suis encore face à une bibliothèque extraordinaire. Absolument. Il y a Jean-Jacques Rousseau en livre ancien et tout, les histoires illustrées de la littérature française et le journal de Mickey.
Oui, exactement. En fait, Igor et moi, on est très éclectiques dans les lectures. On lit de l'ancien, on lit du contemporain et puis aussi évidemment de la science de demain. Mais on a les œuvres complètes et c'est peut-être une des seules collections des œuvres complètes de Mickey que effectivement. La fierté de posséder et de relire.
Alors, il y a plein de livres partout. Vraiment, je ne sais pas où piocher, tellement tout a l'air intéressant. Mais là, quand même, il y a encore des œuvres complètes, mais de Walter Scott.
De Walter Scott, absolument.
Donc, l'auteur d'Ivan Noé. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir Ivan Noé ?
Bien sûr, ouvrons. Walter Scott est un personnage très important. Alors, j'ai découvert, grâce à notre grand-mère, qui était une vraie amatrice de cette littérature anglaise. Et évidemment, Walter Scott fait partie, on le voit ici, il est parfait, avec une petite illustration monogrammée. Et c'est également une édition originale. C'est pour ça que le livre, effectivement, est relativement bien traversant. Tiens, j'ai envie de citer cette magnifique, parce que je parle de traversant, il traverse le temps, mais je ne sais pas si vous... Vous avez en tête que Démocrite est le découvreur de la théorie atomique. C'est lui qui a été le premier à dire, effectivement, les corps se décomposent et quand si je crée, par exemple, une brisure sur une feuille d'arbre, eh bien, je vais arriver à un moment à la dernière brisure et cette dernière brisure s'appelle l'atome, atomos. Donc, c'est les Grecs qui ont dit. Mais il avait une autre façon de dire les choses et c'est la raison pour laquelle il est encore plus intéressant pour moi. Qui disait, au fond, une fois qu'on a traversé la dernière particule, qui est donc l'atome, il y a autre chose. Et il dit, pour atteindre cette autre chose, il faut le toucher traversant. Et le toucher traversant de Démocrite, c'est ce qui permet d'atteindre ce que, aujourd'hui en science, on appelle l'information. C'est-à-dire le radical profond de ce qui sous-tend une réalité. La réalité n'est pas matérielle, en fait. Elle est immatérielle. Et ici, nous avons dans cette bibliothèque, évidemment... le reflet de cette immatérialité porté par tout le talent de ceux qui l'ont côtoyé dans l'écriture.
Justement, la beauté n'est pas matérielle, mais qu'est-ce qui vous émeut tant dans ces livres anciens ? Qu'est-ce qui émeut tant de gens dans les livres anciens ?
D'abord, c'est l'ancêtre, le livre ancien est l'ancêtre, je vais être trivial de dire ça, mais de la clé USB d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, le livre ancien porte le savoir. Donc, c'est très émouvant. D'être en face de ces empilements de connaissances qui sont agrégatives et qui créent des livres. Donc déjà, c'est une source pour nous abstraite, mais en même temps que nous vivons tous les jours, d'être en lien avec le savoir porté par ces livres. Par ailleurs, il y a une deuxième source d'exaltation, mais qui, elle, est plus émotionnelle et je dirais presque affective, en fait. Certains de ces livres, on les a lus quand on avait 6, 7 ans, 8 ans. On a découvert, par exemple, c'est chez Igor en ce moment, là aussi, mais le merveilleux livre de l'astronomie populaire de Flammarion. J'ai découvert ce livre quand j'avais 7 ou 8 ans. On y a vu des choses sublimes et une fascination pour le ciel qui ne s'est jamais éteinte. Mais tous ces livres-là ont tous été, à un moment ou à un autre, traversés par nous. Et ça me ramène à cette atemporalité qui est celle d'abord du lecteur. Le lecteur se laisse évidemment bercer par sa propre temporalité, il est hors du temps, mais aussi ça nous ramène à l'enfance, mais aussi ça nous ramène au château familial, mais aussi ça nous ramène à ces contes que notre grand-mère, je parle par exemple des contes philosophiques de Voltaire, notre grand-mère nous les lisait, et donc nous avions 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc retrouver tout ça, évidemment, c'est retrouver intactes ces émotions d'autrefois.
Mais vous pourriez les avoir dans une édition nouvelle, une édition de poche. Le contenu serait le même.
Non, absolument pas, parce que on sait très bien que Cioran le disait très justement, la forme, c'est le fond qui remonte. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que on ne peut pas aujourd'hui disloquer une émotion du rapport étroit entretenu entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est ce que porte le contenu de ces livres. Alors, le signifié, je pourrais le retrouver dans une édition totalement contemporaine. Mais le signifiant, lui, ce signifiant qui vient du fond des âges, eh bien, il est évidemment inséparable de lui-même. Je ne peux pas séparer ce que je vois, ce qui me parle tellement de cette édition originale de 1620 ou de 1740. C'est impossible. Et puis le cuir, l'odeur, le toucher, le frôler.
Je regardais vos livres à vous, donc signés Igor et Grishka Bogdanov, et je me demandais au fait, pourquoi c'est Igor en premier ? C'est même pas l'ordre alphabétique ?
Non, c'est pas l'ordre alphabétique. Pourquoi en premier ? Eh bien, c'est pour une question purement euphonique, et je dirais presque esthétique. Parce que si on dit Grishka et Igor,
ça coule moins, ça sonne moins.
Alors que Igor et Grishka, c'est parfait.
Mais c'est lui qui a réussi à vous persuader de ça, en fait.
Et oui, absolument. Et puis, je pourrais presque dire que je m'en suis persuadé aussi.
Bon, merci beaucoup, Grishka, donc, pour cette visite dans cette bibliothèque merveilleuse. Profitez bien de ces livres magnifiques.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Europe 1. De retour en studio et merci à Julien Or pour la prise de son. Restez là, les libraires de La Voix et Livre ont médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Ils vont essayer de vous donner envie de les lire. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure de flâner dans les librairies. Aujourd'hui avec nous pour nous guider, Anne-Sophie Rouvelou, librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre. Salut à toutes les deux.
Salut Nicolas.
Salut.
Et Anne-Sophie qui est avec nous par téléphone, puisqu'en ce moment les transports c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup d'être avec nous Anne-Sophie, et c'est vous d'ailleurs qui démarrez, de quoi vous allez nous parler ?
Eh ben, pour changer, je vais vous parler d'un roman français, parce que Nicolas, tu me tacles toujours, parce que je choisis toujours de la littérature américaine.
Non, ça me
dérange
pas.
Cette fois-ci, bah oui, mais quand même, cette fois-ci, c'est un premier roman français, mais qui se passe aux États-Unis. Ça s'appelle Aux armes. L'auteur, c'est Boris Marm, et c'est paru chez Liana Levy. D'accord. Et on fait la connaissance de Wayne, qui est un policier, qui se trouve donc dans un lycée américain. Et soudain, il y a une fusillade qui éclate. Et bien sûr, il est censé intervenir, sauf qu'il va rester figé, parce que bah, il a du mal à croire au coup de feu, hein, parce que ça arrive toujours aux autres et jamais à nous, hein, ce genre de situation. Et bah, surtout, il a peur aussi. Alors, il ne réagit pas, tout du moins pas assez vite. Et c'est à cause de cet instant que sa vie va être détruite, parce qu'Aux armes, ce premier roman relate le lynchage que va subir ce policier par les réseaux sociaux, mais également par les médias qui vont s'emballer, ressasser les mêmes infos en boucle, même si bah, ils n'ont pas grand-chose à dire au final. Hein. Et on a alors sous les yeux deux folies dans ce roman. C'est-à-dire que vous avez la folie du carnage, bien sûr, dans la salle de classe, des vies qui vont être détruites par une folie meurtrière, mais vous avez aussi la folie de la machine médiatique qui détruit, elle aussi, des vies, mais d'une autre manière. Et bah, bien sûr, le livre, il parle de l'Amérique d'aujourd'hui, avec un réalisme bien glaçant, parce que bah, ça parle de la polémique sur le port d'armes, ça parle de manifs, en fait, des élèves du lycée, voilà, qui renvoient à des événements passés qu'on a forcément lus dans la presse, des choses comme ça. Et le livre parle aussi des vies autour de ce massacre. Donc, ça veut dire qu'on a le portrait de la mère de Wayne. On a aussi celui du père d'une des victimes de la tuerie. On a aussi la voix du tueur. Donc, c'est vraiment féroce envers les médias. C'est juste, c'est jamais moralisateur. C'est ça que j'ai adoré. Et bah, c'est un constat très dur pour l'Amérique. C'est un premier roman qui est super.
Parfait. On rappelle le titre. Aux armes, donc, chez Liana Levy de Boris Marm. Un roman français qui se passe aux États-Unis, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, Nicolas.
Merci Anne-Sophie. Pauline Carayon, c'est à vous. Vous avez apporté, vous, l'un des livres vedettes de la rentrée.
Oui, je vous ai rapporté « Otage » de Nina Bouraoui, paru chez Lattès.
Ouais, c'est encore très riant, ça.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas très, très riant. Mais donc, il s'agit de l'histoire de Sylvie Meyer, une femme sans histoire qui bosse depuis 20 ans dans la même entreprise, à la Cagex. Mais voilà, elle se réveille un matin et son mari lui annonce qu'il la quitte. Et au départ, cette annonce-là ne résonne pas chez elle. Elle poursuit des tâches sa vie quotidienne, pardon. Elle continue à accomplir ses tâches, elle a deux enfants, elle continue à bien travailler, car pour elle, ce qui est important, c'est le travail représente pour elle une sécurité, lui permet de s'épanouir jour après jour. Mais cette faille-là, cette annonce-là, va élargir une faille qui existe déjà chez elle. Et elle va finir par ne plus supporter le quotidien. Elle va finir par passer à l'acte.
C'est-à-dire ? On n'a pas le droit de le dire ?
Si, si, on peut le dire, parce qu'on s'en doute au fil des pages. Elle va finir par séquestrer, en fait, son patron, qui lui demande de réduire la main-d'œuvre, qui lui demande de se comporter comme un chef haillon et de se comporter de manière cynique. Et pourtant, elle arrivait à garder une ligne de conduite, à être stable, à ne pas flancher. Mais le fait que son patron lui demande de se comporter en fait comme une traître, en fait, c'est un peu ça, va accélérer en fait la chute de Sylvie. Et ce livre s'appelle Otage, otage au pluriel, parce que dans ce livre, il est question d'être otage de sa propre vie, son passé, sa condition, et pourtant le bonheur n'est pas loin. Et pourtant, on peut s'en sortir, mais c'est écrit d'une telle manière, c'est écrit avec les nerfs, il n'y a pas de... Je veux dire, on va direct à l'os, il n'y a pas de gras, c'est un roman qui est vraiment très fort. Il y a de l'espoir, oui, mais il n'y a pas de happy end, et en même temps, on a toujours une seconde chance.
Parfait, je rappelle donc Nina Bouraoui, Otage au pluriel chez Jean-Claude Lattès et Aux armes chez Liana Lévy de Boris Marme pour Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
Il était une fois.
Dernier chapitre de La Voix est libre et on retrouve Victor Dolande pour son conseil jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
C'est beau ce livre, là, grand format que vous m'avez amené, Le Livre du Trésor de Brunetto Latini et Rebecca D'Outremer.
Oui, alors autant vous le dire tout de suite, j'ai totalement découvert cet auteur. C'est en fait un homme politique florentin du XIIIe siècle qui, alors qu'il était en exil en France, a rédigé ce livre très connu en Italie qui s'intitule donc Le Livre du Trésor.
D'accord.
Et à l'époque, en fait, il réalise un travail colossal. Il compile tous les savoirs de sa société, politique, mathématique, ce qu'on sait également sur les animaux, les planètes, la biologie, enfin vraiment tout, tout,
d'accord,
tout.
Mais on a dit conseil littérature jeunesse.
Alors oui, effectivement, mais en fait, c'est pourquoi je vous parle de ce livre, parce qu'en fait, Grasset Jeunesse a extrait une toute petite partie de ses encyclopédies pour publier un livre. Cet album, celui que vous tenez entre les mains, Nicolas, vient de sortir. Il est consacré donc aux animaux, un bestiaire du Moyen-Âge.
C'est magnifique.
Alors, il y a du vrai, des animaux comme les singes, la baleine, le caméléon, mais aussi des animaux fantastiques sortis tout droit de la mythologie, comme la licorne ou la lucrotte. Alors, je dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout cet animal, Nicolas. Je vous en donne la définition de l'auteur. La lucrotte est une bête originaire de l'Inde qui, en rapidité, surpasse tous les autres animaux. Elle est grande comme un âne, à la croupe d'un cerf, la poitrine et les pattes du lion, une tête de cheval, les pieds d'un bœuf, une bouche fendue jusqu'aux oreilles et les dents qui sont formées d'un seul os. Voilà.
On dirait un loup croisé avec un ornithorynque.
Oui, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça.
C'est
voilà.
Des descriptions étranges, mais qu'on mérite de laisser libre cours à l'imagination.
Oui,
en fait.
Oui, les enfants adorent ça. Toutes les descriptions sont vraiment géniales et la particularité en plus de cette collection qu'a ouvert grâce à Jeunesse, c'est en gros de publier un texte ancien et de demander à un illustrateur de poser son regard sur ce texte. Cette fois, c'est la française Rebecca D'Outremer, considérée comme l'une des plus talentueuses de sa génération. Et ça se vérifie une nouvelle fois, chaque animal présenté ici est sublimé par ses illustrations. Les animaux ont l'air vivants à chaque page et elle sait même le doute entre ceux qui ont vraiment existé et ceux qui font juste partie de notre imaginaire.
Et on rappelle le titre, Le Livre du Trésor de Brunetto Latini, illustré par Rebecca D'Outremer. Vous avez vu mon accent italien.
Magnifique, magnifique.
C'est chez Grasset Jeunesse et vous m'avez précisé qu'on peut relire, si on veut, seulement le texte de Brunetto Latini aux éditions Stock.
Oui, c'est tout à fait ça, aux éditions Stock, vous le trouverez.
Merci Victor.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
La Voix est libre.
Nicolas Carreau.